Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Ouais. Salut, c'est pour un sondage. Les tennismen françaises droguent-ils ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout.
Hier, vous avez dit le contraire.
Ah bah hier, j'avais fumé.
Oh, dur.
C'est le problème avec les sondages. Les Français peuvent changer d'avis comme de chemise. Illustration dans ce sketch du Collard au chaud qui fleure bon les années 80, époque bénie pour les sondeurs lorsque les gens étaient soit de gauche, soit de droite et assez peu dans les extrêmes. Aujourd'hui, les sondages, c'est dur. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, alors que le monde médiatique se met en pause sur les sondages avant le deuxième tour de la présidentielle 2022, on va s'intéresser à la fabrique des sondages et à leur poids dans l'opinion.
Et vous allez voir que ça bouge une fois de plus. Je vous les donne. Emmanuel Macron est à 26. Il perd un demi-point. Marine Le Pen est à 24. Elle ne bouge pas. Jean-Luc Mélenchon perd un demi-point. Il est à 17. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont tous les deux à 9. C'est Éric Zemmour qui prend un demi-point.
Vous en reprendrez bien un petit dernier pour la route. C'était le 9 avril sur LCI, le dernier sondage IFOP fiducial commandé par la chaîne juste avant le premier tour de la présidentielle. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire les commentaires de la vidéo en question sur YouTube. Ces sondages sont là pour orienter votre vote. Ne vous laissez pas avoir, écrit Sébastien. Je ne veux pas croire que Macron soit en tête des sondages, c'est impossible, ajoute Margot. C'est drôle, pourtant, en réalité, on ne connaît pas tellement de gens qui votent Macron, soliloque un certain Top 7. L'art de choisir un échantillon de la population qui vous dise ce que vous voulez entendre, assène Guiseppe. Bref, si on avait fait un sondage, ils auraient tous dit que les sondages mentent. Un objet de sketch pour l'humoriste Haroun.
Ah, c'est vrai, même les marabouts de Gare du Nord, ils disent... Ils disent les sondages, c'est les charlatans. Hein. Ah ouais, ouais, bah, pour eux, c'est la concurrence. Hein. Ah, tu demandes à un marabout à Gardien, il dit les instituts de sondage, c'est l'ubérisation de la voyance. C'est pas possible, ce truc.
Pourtant, les sondages restent omniprésents dans la campagne, scrutés par les commentateurs politiques et guettés par les électeurs plus ou moins inquiets pour la performance de leur champion ou championne dans l'attente du verdict des urnes. Car si les sondages peuvent se tromper, c'est bien à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme dirait Yannick Jadot, qui a fini un peu plus bas que ce que prévoyaient les 10 sondages. Plus l'écart est réduit et plus les chances de se planter sont grandes. Pas facile pour les sondeurs qui seront sans doute très attentifs dimanche aux résultats du second tour de la présidentielle alors que se profilent déjà les législatives. En attendant, je me suis penché sur les résultats du premier tour de la présidentielle pour savoir si les sondeurs avaient vu juste. Pour cela, je suis allé faire un tour du côté du service politique des Échos. Bonjour Alexandre Rousset.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service politique des Échos. Vous commentez régulièrement les sondages réalisés par OpinionWay et Kea Partners pour les Échos. Et si on devait faire un bilan de ce premier tour, les sondeurs ont-ils bien mesuré le vote des Français ?
Globalement, l'ordre d'arrivée des candidats a été respecté. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques surprises. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a fini avec un score particulièrement haut qu'on n'attendait pas. Et en plus, il n'est vraiment pas passé loin d'une qualification au second tour. Et là, pour le coup, ça aurait vraiment déjoué les pronostics parce qu'aucun sondage ne l'avait mis au second tour. À l'inverse, Valérie Pécresse, elle a fini beaucoup plus bas que prévu. De mémoire, les derniers sondages lui donnaient environ 7 ou 8% et finalement, elle a fait moins de 5%. Après, pour leur défense, c'est vraiment difficile pour les sondeurs de donner des estimations précises avant le scrutin. Les électeurs sont beaucoup plus volatiles qu'avant. Et ils sont de plus en plus nombreux à faire leur choix au dernier moment. Un sondeur m'a même raconté une fois que certains se décident seulement une fois dans l'isoloir.
Mais plusieurs journaux, dont Ouest France d'ailleurs, ont décidé de ne plus publier de sondages. Ils parlaient, et notamment Ouest France à l'époque, d'inquiétantes dérives, c'est-à-dire...
Oui, en effet, Ouest France a fait ce choix. Et ce n'est pas nouveau d'ailleurs. D'autres médias avaient déjà pris la même décision en 2017. Mais en tout cas, l'édito de François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, dans lequel il justifie cette décision, était vraiment intéressant à ce sujet. En gros, il ne remet pas en cause le travail des sondeurs. Il souligne même leur prudence et leur expertise. Il parle des marges d'erreur, des rappels, disant que ce ne sont pas des prévisions, juste un état des lieux, etc. Mais comme il le dit très bien, ces sondages sont souvent pris comme argent comptant par ses lecteurs, ce qui peut déformer le débat public et perturber les électeurs dans leur choix. C'est donc pour éviter ce genre de confusion qu'ils ont décidé de ne pas publier de sondage.
Ouais, c'était sans doute mieux avant. Les sondages, c'était plus simple entre la droite et la gauche. Mais ce qui a changé et complexifié aussi ce métier, Alexandre, c'est l'émergence des chaînes d'infos en continu.
Oui, c'est ce que plusieurs professionnels des sondages m'ont dit quand je travaillais sur le sujet. Ils m'ont expliqué en fait qu'ils livraient toujours des enquêtes en prenant beaucoup de pincettes, avec des nuances, avec des avertissements. Mais que ces détails, on peut prendre le temps de les expliquer dans la presse écrite, mais pas sur les chaînes infos. Parce que les chaînes infos, vous connaissez, il faut envoyer dans un temps record une info percutante rapidement. Par exemple, quand Éric Zemmour a commencé à laisser entendre qu'il serait candidat à l'automne 2021, donc 6 mois avant la présidentielle, les instituts de sondage disaient dans leurs enquêtes, je cite, « Si Éric Zemmour officialisait sa candidature » et que l'élection avait lieu ce dimanche, il serait potentiellement en position de se qualifier pour le second tour. Mais quand les chaînes d'infos reprenaient ce sondage, le bandeau à l'écran titrait « Zemmour au second tour », ce qui n'est pas du tout la même chose. Après, ces chaînes de télé ne sont pas les seules responsables. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, les sondages peuvent maintenant être massivement partagés, sans contexte ni explication de la méthodologie. Et dans ces conditions, on peut faire dire ce que l'on veut à des chiffres qui apparaissent comme ça, sans pouvoir les distinguer.
Justement, alors, dans un article publié en octobre, vous expliquez qu'il y a des bons sondages et des mauvais sondages, c'est-à-dire ?
Alors là aussi, c'est un problème de méconnaissance en fait entre les sondages et le public, car on mélange un peu tout. Ici, nous, on parle de sondages produits par des instituts professionnels, avec une méthodologie rigoureuse et des règles strictes. D'ailleurs, tous ces sondages sont contrôlés par une commission des sondages, qui est un organisme public. Mais à côté de ça, vous avez aussi des sondages qui n'ont aucune rigueur ni garde-fou. Il y a un exemple qui me marque beaucoup, c'est certains médias qui interrogent leurs lecteurs sur les réseaux sociaux. Par exemple, êtes-vous pour ou contre ce qu'a dit le Premier ministre hier ? Alors que le lectorat de ce média n'est absolument pas représentatif de toute la population française, et tout comme les internautes qui sont tombés dessus d'ailleurs. Mais il y a beaucoup plus dangereux. Sur Internet, vous pouvez trouver de nombreux instituts de sondage vraiment obscurs qui ne dévoilent pas leur méthodologie, qui s'appuient sur des algorithmes parfois un peu douteux et qui n'ont aucune fiabilité. Et cela peut alimenter des fake news. D'ailleurs, je me souviens, dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, on a vu passer des sondages soi-disant confidentiels ou cachés qui annonçaient une qualification d'Éric Zemmour au second tour et qui ont eu un franc succès sur les réseaux sociaux.
Les sondages se sont toujours trompés depuis 25 ans. Depuis 1995, je rappelle une seule anecdote. En 1995, là comme aujourd'hui, les sondages donnent un écart entre Édouard Balladur et Jacques Chirac de 10 points. De 10 points à Laurence Ferrari. Ça se finira à 1,5 point en faveur de Jacques Chirac. Tout ça pour dire que les Balladuriens, Nicolas Sarkozy en tête, s'étaient découragés. Ils avaient dit, comme vous, « Ah ben, c'est pas grave, de toute façon, Chirac, ça, voilà. » Donc, il ne faut surtout pas croire les sondages.
Il ne faut pas croire les sondages qui découragent les électeurs, dissertait le candidat Éric Zemmour sur le plateau de CNews, commentant un sondage qui le donnait à 9% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle, rappelant qu'il a fini à 7%. Les sondages, objets de critique des politiques, des électeurs et même des médias qui en sont pourtant de grands consommateurs. Alexandre, le sondage politique est-il essentiel à la vie publique ?
Alors, c'est une excellente question et honnêtement, moi personnellement, je n'ai pas la réponse. Déjà, il ne faut pas oublier que les sondages sont là pour observer des tendances. Ce sont des réactions de l'opinion. Par exemple, si le candidat X annonce dans un meeting qu'avec lui, tout le monde partira à la retraite à, disons, 50 ans, et qu'après, il gagne 5 points dans les sondages, ça veut dire qu'il a réussi son coup, que l'opinion est réceptive. Et ça va nourrir le débat d'idées. Ses adversaires vont être obligés de réagir, de se positionner par rapport à sa proposition, etc. Donc, quand on regarde les sondages de ce côté-là, ça peut vraiment être un moyen de faire vivre la démocratie. Mais ça provoque aussi un effet pervers. Les politiques peuvent être obnubilés par ces enquêtes d'opinion et n'agir que par ce prisme. D'ailleurs, ce sont souvent les premiers à cracher sur les sondages quand ils ne leur sont pas favorables, mais ils adorent les citer quand ils vont dans leur sens. Et on pourrait aussi parler du vote utile, le fameux vote utile qui pousse de nombreux électeurs à ne pas voter pour le candidat dont ils sont le plus proches, mais pour celui qui leur semble mieux placé pour gagner. Et dans un sens, ça fausse clairement le scrutin.
Tu votes utile, tu votes en touche, tu votes pour le base manouche, tu votes parce que c'est bien délire, tu votes et ça te fait bien rire.
Dimanche, on vote et plus question de vote utile. Au deuxième tour, on choisit l'un des deux candidats. Le choix est plus restreint, n'en déplaise à certains, et les critiques contre les sondages se sont un peu apaisées. Mais en rangeant les prospectus électoraux du premier tour, mes yeux sont tombés sur un programme. Tout en haut à droite, il démarre ainsi. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président, mais c'est à vous de choisir le vôtre. Bonjour Alexandre Guérin.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes directeur général d'Ipsos. Cette critique des sondages qui orienteraient le vote, vous l'entendez souvent ?
C'est une critique qu'on entend, pas souvent. Ipsos fait des sondages électoraux, des sondages d'opinion dans une trentaine de pays depuis plus de 45 ans. Donc ça peut arriver qu'on ait ce genre de critique. Les sondages, bien évidemment, donnent l'ordre d'arrivée, entre guillemets, ou en tout cas la photo de l'opinion à un instant donné. Forcément, ça fait des contents et des malheureux.
Mais ce candidat, il a fait à peine 2,1% des voix. C'est le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan qui n'a visiblement pas été choisi par les électeurs. Mais au fond, est-ce qu'on ne prête pas trop d'importance aux sondages ?
Alors, je pense que l'importance des sondages, les sondages électoraux, dépend aussi des systèmes politiques présents dans chaque pays et du contexte. Dans le cadre de la présidentielle, nous sommes entre les deux tours actuellement. On voit plusieurs facteurs intéressants. Il y a une grande fragmentation de l'offre électorale. Il y a des dynamiques de force qui sont nouvelles. On n'est plus du tout dans le clivage droite-gauche que l'on pouvait avoir avant. Donc aujourd'hui, bien évidemment, pour un premier tour comme celui-là, sachant qu'il n'y a pas vraiment eu de primaire, à part à droite chez les Républicains, les sondages ont un rôle extrêmement important pour mesurer les rapports de force et pour permettre aux électeurs de faire le meilleur choix.
Mais le sondage, vous diriez que c'est une brique de la démocratie ?
Absolument. Nous, en tout cas, on en est convaincus, à la fois pour donner la photo de l'opinion, mais aussi pour bien comprendre les motivations des Français.
Alors, je voudrais vous faire réagir sur un sondage dont vous avez peut-être entendu parler, sûrement d'ailleurs, le sondage Côte-Mie, dont il a été beaucoup question juste avant le premier tour de la présidentielle, c'était le vendredi. Il plaçait Éric Zemmour en deuxième position derrière Emmanuel Macron. Le candidat de Reconquête ne s'est pas privé de communiquer sur ce sondage avec le résultat que l'on sait. Il parlait de vrais sondages dont personne ne parle. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors écoutez, il y a beaucoup d'entreprises et de sociétés qui font des sondages ou des choses qui ressemblent à des sondages. Je pense que la méthode ici en question est très différente de ce qu'on peut faire chez Ipsos. Même si nous-mêmes, on utilise des réseaux sociaux et on avait notamment vu et dit que quand on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, effectivement, on voit Emmanuel Macron en numéro 1 et Éric Zemmour en numéro 2. Par contre, quand on faisait des sondages scientifiques sur un échantillon complet avec les méthodes Ipsos qui sont testées, qui sont éprouvées dans de multiples pays et comme je disais sur plus de 45 ans, on voit qu'on a donné le bon ordre. Donc voilà, faut aussi faire attention aux méthodologies qui sont utilisées.
Mais c'est vrai que là, c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle, qui va regarder un peu ce qui se passe, notamment sur les réseaux sociaux. C'est presque celui qui crie le plus fort qu'on entend le plus, d'une certaine façon. C'est une technologie qui vous intéresse quand même ?
Alors oui, tout à fait. On l'utilise pour déjà comprendre un petit peu ce qui est dit. Il y a une analyse, j'ai envie de dire, sociologique sur les grands enjeux. Donc les réseaux sociaux sont effectivement très intéressants. Mais on voit bien qu'il ne faut pas se limiter qu'à ça. Donc ça, c'est le facteur compréhension. Ensuite, il y a le facteur engagement des répondants pour que, bien évidemment, quand on fait un échantillon, on veut que toutes les catégories d'âge, par exemple, nous répondent. Donc pour les plus jeunes, on utilise de plus en plus des méthodologies via de la messagerie, via des réseaux sociaux ou autres pour être sûr qu'on capte leurs réponses.
Sondage, toujours des chiffres, moi on me demande jamais rien. Jamais rien. Non, jamais rien.
On parle ici d'intelligence artificielle, mais en matière de sondage, surtout de sondage politique, on est avant tout dans l'humain finalement, dans l'intelligence plus émotionnelle.
Alors on mélange les deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois des modèles statistiques, qu'on peut appeler intelligence artificielle, mais il y a toujours un contrôle humain. L'humain, il est extrêmement important au début du processus, pour être sûr qu'on pose les bonnes questions, des questions qui ne sont pas biaisées aux bonnes personnes. Il est également important dans l'analyse des résultats, pour être sûr que ce qui sort du système est cohérent, qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Donc chez Ipsos, il n'y a pas d'algorithme avec des boîtes noires, on mélange de l'humain, de la technologie et de la science.
Mais comment est-ce qu'on construit un panel ?
Alors un panel, là on parle de panel online, ce sont des panels qui sont construits par Ipsos, donc nous, c'est quelque chose qu'on ne sous-traite pas, on le fait nous-mêmes, c'est ce qui nous différencie d'ailleurs par rapport à nos principaux concurrents. On a à peu près 300 000 personnes qui participent à nos enquêtes en France. Ils sont recrutés via une grande variété de sources, on s'assure qu'on a cette diversité déjà dans les méthodes de recrutement. Ensuite, on vérifie, on qualifie les répondants, on s'assure que ce soit bien des répondants réels et pas des robots, par exemple. On s'assure que leur réponse soit cohérente et on s'assure également que les structures d'échantillons représentent bien la population française, que ce soit par exemple sur des variables sociodémo et plein d'autres.
Les sondages spéléologiques de l'opinion publique législative s'effectuent, n'est-ce pas ? Oui. À l'aide d'une sonde électromagnétique hydrofuge en orbilure de plastronium saligovalent et d'une fourchette électorale en clepsydrite de finiabulose inifuge calcificatrice.
Mais voilà qui est très clair, c'est absolument limpide.
Ça saute aux yeux comme une carte dans un taxi.
Exactement, c'est très clair.
On comprend bien la notion de panel et de quota, plus simple que les explications limpides de Pierre Dac sur les sondages et la fourchette électorale, une archive de l'INA. Alexandre Guérin, en France, mais aussi dans les autres grandes démocraties, comme en Allemagne ou aux États-Unis, les électeurs sont de plus en plus souvent indécis, versatiles. Comment travaillez-vous pour vous adapter à ces changements et comment réduire la célèbre marge d'erreur ?
L'incertitude de choix et la marge d'erreur sont deux phénomènes qui sont à la fois réels mais qui sont assez distincts. La marge d'erreur, c'est une marge d'erreur statistique. Donc là, on est vraiment dans le domaine des mathématiques appliquées. La marge d'erreur, ça dépend de la taille de l'échantillon, ça dépend de la variance entre les réponses et ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien mesurer, ça répond à des lois statistiques. Typiquement, sur les enquêtes que vous avez vues avant le premier tour, on est sur des marges d'erreur à 2 points, sur des échantillons de 1000 ou 1500 personnes. Alors ensuite, l'incertitude du choix est tout à fait réelle. Et c'est pour ça que dans les enquêtes qu'on publie, nous, on encourage toujours nos partenaires, les lecteurs, mais aussi les médias, à publier l'ensemble de l'enquête et l'analyse qui en est faite. Parfois, on s'arrête un petit peu trop, juste au tiercé qu'on voit sur la première page des journaux, par exemple. Mais par exemple, si on prend ce qu'a publié Ipsos, vendredi dernier, et on a d'ailleurs fait nous-mêmes un certain nombre de webinars et d'événements avec nos clients, qu'est-ce qu'on disait ? On disait que vendredi, 42% des électeurs de Yannick Jadot n'étaient pas sûrs qu'ils allaient voter Yannick Jadot. Donc ils nous avaient dit, le vendredi, on va sans doute voter pour Jadot, mais pour 42%, ils n'étaient pas sûrs. Et on voyait les mêmes phénomènes chez plein d'autres candidats, notamment Valérie Pécresse et autres. Donc on avait déjà, en plus d'une dynamique qui était en faveur de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon sur les semaines précédentes, on voyait déjà, on pouvait mesurer cette incertitude et on pressentait qu'il allait avoir un vote utile qui allait, en l'occurrence, booster, si vous me permettez l'expression, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen le dimanche soir.
Mais ça, c'est quelque chose d'important. C'est que souvent, les chiffres qui sont donnés, hein, 25%, 20%, 19% par exemple, sont sur les personnes qui sont sûres d'aller voter, par exemple, et sûres de leur choix.
Alors, sûres d'aller voter, c'est aussi... Donc, il y a également, vous avez raison, un troisième facteur qui est l'abstention. Nous, on avait prédit une marge entre 70 et 74% de participation. On a terminé vraiment en haut de la fourchette. Donc, ça, effectivement, il y a eu ce facteur additionnel, il y a eu un petit peu plus de participation que ce qu'on avait imaginé. En tout cas, on était dans la fourchette haute de nos estimations.
Mais cette indécision croissante, est-ce qu'elle ne remet pas en cause la pertinence des sondages ?
Alors, ça ne les remet pas en cause parce que je pense qu'on avait publié l'ensemble, tout ce que je vous dis là, on le disait déjà la semaine dernière. Voilà. Donc, un sondage, ce n'est pas que l'ordre d'arrivée, si vous me permettez l'expression, c'est aussi toutes les analyses qui sont faites derrière. Et nous-mêmes, dans ce qu'on publie, dans les événements qu'on a fait avec des journalistes et des clients, les jours précédents l'élection, on discutait de cela, on avait les chiffres pour étayer tout cela. Donc, il faut vraiment prendre le sondage dans sa globalité. Il y a une photo, mais il y a aussi des dynamiques et il y a des possibilités de report de voix. Surtout dans une configuration où, quelque part, les Français, un certain nombre de Français, ont voté utile.
Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix.
52% des voix contre 48% pour Nicolas Sarkozy. L'écart est minime en 2012 à 20h tapante. Ça, c'est quelque chose qui peut surprendre. Le 24 avril prochain, ce dimanche, vous serez capable, avec votre partenaire Soprasteria, de fournir une première indication du résultat de cette présidentielle. Mais comment faites-vous ?
Alors là, on est sur la deuxième partie de notre activité électorale. Il y a des sondages préélectoraux et ensuite, il y a l'estimation du vote final qui est faite, vous avez raison, avant même, ou en tout cas au même temps que les bureaux de vote ferment en France. Les bureaux de vote en France ferment entre 19h et 20h. On a un autre outil qu'on appelle notre chaîne électorale qui repose en fait sur les remontées des premiers dépouillements dans des bureaux de vote. Donc on a des représentants Ipsos dans 500 bureaux de vote en France. Tout ça est coordonné par notre centre d'appel en Bretagne. Et on a en temps réel une quarantaine de personnes qui travaillent à la chaîne d'estimation. Comment ça marche ? On a les premières remontées des bureaux de vote. On a un modèle statistique. On peut parler d'intelligence artificielle, par exemple, qui va comparer ces résultats aux élections précédentes, qui va voir un petit peu comment le panorama a évolué. Et donc, on est capable, en un quart d'heure à peu près, de projeter un résultat final. Et on l'a vu dimanche soir, et on était assez précis dès 20h. Même si on a vu également, dans la deuxième partie de la soirée, au fur et à mesure que les bureaux de vote des grandes villes qui rentraient, on affinait notre estimation. Et comme il y a eu un vote important, notamment pour Jean-Luc Mélenchon dans les grandes villes, on a vu que Jean-Luc Mélenchon était un petit peu remonté au fur et à mesure de la soirée. Donc concrètement, voilà comment ça marche. C'est une estimation, une extrapolation statistique de premiers résultats réels. Et le modèle s'affine tout au long de la soirée.
Et on reste toujours dans les mathématiques, parce que vous faites un métier de mathématicien. Vous avez fait HEC, je crois. Vous êtes ipsosien depuis plus de 15 ans. Est-ce que les Français ont changé dans leur approche de la politique ?
Alors, je dénote, il y a toujours une grande passion. Je suis toujours impressionné par le nombre de sondages qui sont publiés, par le nombre d'émissions politiques qu'on a en France. Et on voit bien que malgré ce qu'on peut dire, la participation, quelque part, 74%, c'est pas si mal que ça. On a connu pire dans notre démocratie, donc je pense que le débat démocratique est bel et bien présent. Bien évidemment, ce qui a changé, c'est une refonte complète de l'offre électorale, des dynamiques entre partis. Ça, c'est effectivement très nouveau. Mais quelque part, on le voit aussi dans d'autres grandes démocraties.
Un dernier mot, que fait un grand sondeur comme Ipsos quand il n'y a pas d'élection ?
Ah ben alors en fait, la partie électorale pèse dans notre chiffre d'affaires. En fait, c'est une petite partie, ça pèse un peu moins de 1% de notre chiffre d'affaires en France comme dans le monde. On a un autre cœur de métier donc qui tourne autour du marketing pour aider les marques à mieux comprendre leurs clients, leurs consommateurs et à délivrer les meilleurs produits et services possibles. Ça, c'est le gros de l'activité d'Ipsos. On est également très engagé dans la qualité des prestations publiques. On travaille par exemple beaucoup pour Santé publique France. On a beaucoup travaillé pendant le Covid pour comprendre les modes de propagation du virus, l'effet des vaccins. Ça, c'est pour vous donner un exemple qu'on connaît assez peu d'une application des méthodes statistiques d'échantillonnage à la santé et aux politiques publiques.
Et pour vous, la bataille pour les données, j'imagine, est donc essentielle, notamment face à la concurrence des GAFA qui commence à pointer ?
Alors, ça, c'est assez intéressant. Il y a 10 ans, on aurait pu penser que les GAFAM, ou les GAMAM maintenant, puisque Facebook a changé de nom, deviendraient des concurrents d'Ipsos. En fait, ce sont devenus nos premiers clients. Alors, pourquoi ? Parce qu'Ipsos apporte une capacité, et une capacité notamment de collecte de données et de lecture qui est unique. Et donc, on travaille beaucoup avec les GAFAM, non pas pour remplacer toutes les données que eux collectent déjà sur les comportements de leurs utilisateurs, mais pour qu'ils se benchmarkent par rapport à leurs concurrents, et aussi pour apporter cette couche de compréhension humaine dont nous parlions il y a quelques minutes. Donc voilà, aujourd'hui, le plus grand client d'Ipsos est un GAFAM.
Merci Alexandre Guérin, directeur général d'Ipsos, et merci Alexandre Rousset, journaliste au service politique des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.